France Inter.
Salut Fred, c'est Sonia. Bah écoute, je fais partie de la joyeuse bande qui a pas toujours tout compris à tout ce qui se passait dans tes émissions. Mais j'étais super contente de passer mes étés avec toi. Je fais partie de ceux qui ont voté sur Instagram et j'aimerais bien un épisode sur Peaky Blinders. Donc j'espère que tu l'as prévu pour cet été et j'ai hâte de l'écouter. À bientôt.
Salut mon Fredo, salut Freddy, salut Frédéric. C'est Johnny, je suis trop content de te retrouver pour Blockbuster. Toute l'année j'ai attendu ça. Vive l'été, vive Blockbuster. Oh yeah.
Salut Fred, salut l'équipe. Merci pour tous ces étés de découverte et aussi tes chroniques à par Jupiter les vendredis matins et aussi les dimanches, j'y pense. Rassure-toi, on a appris sur certains sujets autant de choses que sur cette semaine avec Code Quantum. Enfin, pas sûr d'avoir bien compris, mais on a été ouvert sur autre chose, un univers qu'on n'aurait pas découvert sans toi, sans vous. Donc, sincèrement, merci. C'était Sandy. Bisous.
Bonjour, je suis Fabien Moreau. Je souhaite remercier Frédéric et Liciane et leurs collègues de m'avoir invité pour parler de Godzilla et Bruce Lee au micro de Blockbusters. Frédéric Sigrist étant un personnage de comics, la fin de Blockbusters est plutôt la fin d'un run. Le super-héros Sigrist se réinventera sous une autre forme, avec un costume repensé, une origin story rebootée, de nouveaux adversaires politiques et de super invités. Moult kryptonite nous affaiblissent en ce moment, mais Frédéric attend dans l'ombre pour ouvrir sa chemise, dissimulant un S flambant neuf, le S de Sigrist, justicier des ombres. Pour citer Harvey Dent, Dawn is coming, l'aube arrive. Amitié et mille merci à toute l'équipe. La culture triomphera.
To be or not to be, not to be.
Vous vous souvenez de cette époque où on voyait un film, genre 3, de Wolfgang Petersen avec Brad Pitt en jus de pète, le muscle saillant sous la sandalette? On disait qu'on aimait bien, et subitement, sortant d'un buisson, t'avais un vieux prof de latin acariâtre, avec un pantalon en velours et un gilet en laine, qui surgissait pour te demander si t'avais lu l'Iliade du poète Homère. Et si c'était pas le cas, eh ben il disait que t'avais juste le droit de te taire, car t'étais décidément trop con. Eh ben ça y est, je suis officiellement devenu ce vieux prof de latin. Sauf que moi, c'est pas avec les livres, mais avec les jeux vidéo et la série Last of Us. Dès que je croise quelqu'un qui a adoré la série HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, je peux pas m'empêcher de lui dire « Ah, t'as aimé, c'est bien !» Mais tu sais quoi? Le jeu vidéo, il est tellement mieux! Alors attention, c'est une bonne série, hein, extrêmement bien jouée, mais le médium qu'est le jeu vidéo permet de faire ressentir tellement plus de choses. Car on peut pas faire abstraction du médium sur lequel est racontée une histoire. Tout n'est pas transposable tel quel. Et dans un jeu vidéo, joueurs et protagonistes se confondent. On est Joël ou Ellie dans Last of Us. Ils n'avancent que si on les fait avancer. Ils sont redoutables avec leurs ennemis que parce qu'on l'est également. Leur violence, c'est notre violence. Et on ne reçoit les rebondissements de l'histoire qu'en même temps qu'eux. Il n'y a pas plus viscéral comme manière de ressentir. Last of Us sans le médium, c'est une histoire de zombies et de vengeance comme il y en a déjà eu des tonnes. Ce qui en fait une œuvre inoubliable, c'est la manière dont elle a été racontée, sa capacité à interroger le joueur sur sa propre violence et sur ses propres pulsions. Les spectateurs de la série Last of Us peuvent tout à fait aimer la série. Néanmoins, l'intérêt principal de ce chef-d'œuvre, en tant que jeu vidéo, c'est d'en être les acteurs. Allez, je retourne dans mon buisson.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Cela fait 67 ans que le monde s'est brisé. 67 ans que lumière a été envoyée au milieu de l'océan. 67 ans qu'elle est apparue et a peint son premier chiffre. Expédition après expédition ont tenté de l'arrêter. Les idéalistes, combattant pour l'avenir de lumière. Les académiciens, obsédés par les secrets du monolithe. Et ces pauvres âmes qui veulent juste donner un sens à leur mort. Aucune n'est jamais revenue. Et moi non plus, je ne reviendrai pas. Mais au moins, j'aurais vu quelque chose du monde. J'aurais découvert ce qui se cache là-bas. J'aurais découvert ce qui se cache au-delà du dôme de lumière. J'aurais suivi la trace de toutes les expéditions qui nous ont précédées. Demain, la peintresse s'éveillera. Et demain, nous voguerons vers l'inconnu. Même si nous échouons, nous montrons la voie à ceux qui nous suivront. Nous sommes l'Expédition 33.
Quand j'ai demandé aux gens quels jeux vidéo ils voulaient nous voir traiter pour cette ultime saison, je m'attendais à des classiques tels que Call of Duty, Doom ou Donkey Kong. J'avais oublié à quel point les auditeurs et auditrices de Blockbuster ont du goût. C'est Clair Obscur Expédition 33 qui est arrivé très très haut dans les votes. Ce qui confirme, s'il en était encore besoin, à quel point ce jeu vidéo français a séduit un nombre incroyable de joueurs et joueuses sur la planète. Il faut dire qu'avec une élégance graphique et de mise en scène rarement vue, un scénario fouillé et une bande-son sublime, nombreuses sont les qualités de ce jeu dont on va explorer la genèse en compagnie de Laurien Testard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien et vous êtes le compositeur de la bande originale de Clair Obscur, Expédition 33.
Tout à fait, merci beaucoup pour l'invitation.
On est ravis. Avec nous, et on est tout aussi contents, Daniel Andreev, bonjour.
Bonjour, comment
alias
ça va?
Alias Kamui, très bien. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en pop culture et auteur de la légende de Dragon Quest paru chez Third Edition.
Exactement.
Avec nous pour la première fois, on a gardé le meilleur pour la fin, Melinda Davansoulas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en jeux vidéo, on peut notamment vous voir sur la chaîne Tech & Co où vous présentez l'émission Multijoueur.
Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là, enfin en plateau dans Blockbuster, pour un Blockbuster quand même.
Exactement.
Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous.
En général, dans Blockbuster, pour qu'on commence à traiter un sujet, il faut quelques années, quelques numéros, quelques opus avant qu'on se dise « Ok, ça c'est définitivement un Blockbuster dont on parle ». Et est arrivé Clair Obscur, qui en un temps record a tout raflé. Là, voici un échantillon des notes, 9 sur 10 sur IGN, 100% sur GameRant, 90% sur GameCult. On est en termes de vente 1 million le premier jour, et 33e jour, le jeu était à 3,3 millions de ventes. C'est un truc de fou. Autour de moi, tout le monde m'a dit « Oh non, non, mais ce jeu, il faut l'essayer, ça m'a chamboulé, c'est beau, c'est émouvant, etc. » Donc, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce jeu, car il s'est imposé en tant que blockbuster plus rapidement que n'importe quoi. Mais de quoi ça parle ? Et pour cela, je vais demander à Melinda.
J'aime bien ce que tout le monde se regardait en disant « Oh là là, sur qui ça va tomber ?»
C'est toi qui fais le pitch.
Voilà. C'est moi qui vais
pitcher.
C'est le
baptême.
Mon Dieu.
De quoi ça parle, Clair Obscur, Expédition 33, Melinda ?
Alors, d'une expédition numérotée 33. Et pourquoi 33 ? Non, ça parle dans une ville qui s'appelle Lumière. On l'a très bien entendu au début. Eh bien voilà, il se passe quelque chose, c'est que tous les ans, une peintresse, qui est une espèce de figure qu'on voit lointaine,
une entité
sur un monolithe, efface un numéro pour en mettre un qui est décroissant. Et donc, elle efface le 34 pour mettre un 33, et tous les gens âgés de 34 ans disparaissent. Et donc, ça fait 67 ans, 66 ans que ça dure. Donc, et bien évidemment, les habitants, ils en ont marre, et ils partent dans une expédition pour aller détruire cette peintresse et arrêter ce cycle. Voilà.
Et donc, c'est l'expédition des 33 ans.
Voilà, de ceux qui sont censés, qui sont voués à disparaître aussi, parce que c'est vraiment une disparition. La scène d'ouverture est assez marquante et touchante pour comprendre la portée de la disparition, qui est un effacement, un gommage. Mm-hmm. Et donc, ils partent pour aller sur le continent détruire cette peintresse et comprendre pourquoi il y a cette espèce de malédiction qui s'est abattue. Et donc, on a toute une panoplie de personnages qui se lancent.
Et donc, c'est aussi un univers dans lequel des personnes âgées n'existent plus. Daniel,
tu es un cas, Fred, maintenant. C'est
pas... Ah oui, j'ai un peu passé la date de péremption.
Moi aussi.
Mais de toute façon, dès le titre, dès que j'ai compris le principe, j'ai dit « Ah !»
C'est une manière assez intelligente et habile de poser le romantisme, en fait, de dire que bah, les vieux n'existent plus et de dire qu'il n'y a que la jeunesse qui peut essayer d'apporter, de sauver quelque chose dans ce monde qui est quand même mystérieux. Ils n'ont pas les clés eux-mêmes. Quand ils partent en expédition, ils ne savent pas où ils vont. Et ils savent que, de toute manière, ils n'en réchapperont pas parce que bah, il n'y a aucune nouvelle de l'expédition 34. Et au fur et à mesure de leur découverte, ils vont voir qu'il y a des traces qui ont été laissées par les précédentes expéditions, qui ont été plus ou moins loin dans l'expédition. Et du coup, ça donne un côté touchant. Inévitablement, la présence de la omniprésente de la mort, mais vraiment omniprésente, c'est-à-dire dès l'intro, te met complètement les boules. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, ok, on est condamné et on va faire ce qu'on peut. Et c'est la première manière qu'a trouvé le jeu de mettre un impact important sur le joueur et de l'engager à essayer d'incarner ses personnages. Donc on incarne cette équipe de personnages menée par Gustave.
Il y a des faux airs de Robert Pattinson.
Ouais, ça se discute. Il y a un petit côté Robert. Écoute, mais il y avait pire modèle, hein, si j'ai envie de dire. Et accompagné d'une ribambelle d'amis. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un RPG. Et ça, c'est important parce que c'est un jeu de rôle, et précisément un jeu de rôle à la japonaise. C'est presque un genre qu'on... il existe encore, hein. Il y a encore des blockbusters, justement, de jeux de rôle. Tu as fait plein d'émissions, on a fait Xenoblade,
Persona.
Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine, quinzaine d'années, même peut-être plus... Le Japon lui-même s'est rentré dans une certaine partie du Japon, en tout cas de sa production de jeux vidéo, est rentré dans une phase où ils essayent de faire des jeux à l'occidental. Il y a eu des succès comme Game of Thrones, il y a eu le succès de l'heroic fantasy traditionnel. Donc du coup, eux, ils ont essayé de faire des choses plus occidentales. On l'a vu, Final Fantasy s'est occidentalisé au fur et à mesure. Et là, Clair Obscur, justement, essaye d'épouser complètement la grammaire du jeu vidéo japonais.
Mais en restant très français.
Et en restant complètement français, c'est-à-dire dans son approche et dans son esthétique, ce qui fait que ça devient une œuvre exotique pour le monde entier, c'est-à-dire ils sont en train de voir un jeu vidéo fait à la japonaise, avec amour, hein, parce que vraiment, tu sens, quand tu joues au jeu vidéo, tu sens qu'il y a quelque chose de très très fort dans ce qui est fait, mais en même temps, une identité française très très marquée, notamment par l'esthétique Art Nouveau, par la musique.
Par la musique, Laurien, j'en viens à vous. Est-ce que vous avez d'abord découvert le scénario et ensuite vous avez composé la musique, ou est-ce qu'on vous a demandé de faire des essais de musique avant de découvrir le scénario ?
Alors les deux sont étroitement liés. Je suis arrivé très tôt sur le projet, donc il y avait déjà des premiers morceaux du jeu qui s'appelait We Lost à l'époque. Qui était déjà composé avant qu'on fasse le script d'Expédition 33. Donc on a certains morceaux du jeu qui sont actuellement dans le jeu final, qui datent d'avant le script d'Expédition 33. Et ensuite, sur la suite de la production, j'ai étroitement lu le scénario et les concept art du jeu pour créer la musique. Donc il y a un petit peu des deux.
Et est-ce qu'il y a eu un moment un petit peu informel où vous vous êtes retrouvé avec les créateurs autour d'un café ou autour d'un repas, où les gens, juste portés par la passion, vous disaient « Et puis alors là, dans le jeu, il se passera ça, et puis on ira vers ça, et ça, et ça. » Et vous, dans votre tête, les sons commencent à émerger, ou non, ça a vraiment été un travail plus distancié, plus mathématique presque?
Non, non, pas du tout. C'est beaucoup de discussions et de moments de vie comme ça. Il y a énormément de discussions que j'ai eues, notamment avec Guillaume, qui est le directeur de Central Interactive, où c'est simplement de longues discussions sur Discord, où en vrai, c'est des idées qui naissent comme ça, d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup d'échanges, et globalement, c'est très spontané, les idées musicales. C'est la description d'un personnage ou la posture d'un concept art qui va un petit peu m'inspirer et me faire ressentir ce que j'ai envie d'écrire musicalement pour ce personnage.
Melinda, quel a été votre ressenti quand vous avez découvert pour la première fois Clair Obscur Expédition 33 ?
Alors, la première fois qu'on a vu le jeu, pour les gens qui suivent le jeu vidéo, c'est l'année dernière, en fait, lors de la conférence Xbox. Et c'est le jeu d'ouverture d'une des très grosses conférences de l'été. Et on voit arriver ce Paris détruit, et il y a quelque chose de, tout de suite, comme l'a dit Daniel, quelque chose de très onirique, très français, mais aussi très, très asiatique dans le jeu vidéo. On se trouve face à ce mélange qui vraiment tout de suite... Moi, c'est un jeu, je suis sortie de cette conférence et j'ai dit tout de suite, ça c'est un jeu qu'il faut qu'on garde un œil dessus parce qu'il y a quelque chose. C'est rare ces jeux qui ont... Alors musicalement, je ne dis pas ça parce que Laurien est là, on en a déjà discuté longuement, mais...
C'est une énorme partie du charme.
C'est quelque chose qui fait... Il y avait cette patte graphique, il y avait cette musique et on était tous là. Moi, j'étais dans la salle et on s'est tous regardés, on s'est dit... attendez, c'est français ça? Parce que derrière, on voit que c'est un studio montpelliérain. Vraiment, il n'y avait pas les codes. Il n'y avait vraiment pas les codes, hormis Paris détruit, enfin ce semblant de Paris de la Belle Époque, ça s'appelle Lumière, la ville, on a compris tout de suite. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de vraiment très particulier sur ce jeu. Et donc, c'est vrai que nous, voilà, chez BFM, on l'a suivi très très tôt, le jeu, pour comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, on était aussi capable de faire ça. De faire ce jeu qui a des airs de JRPG. Alors nous, voilà, ça nous a fait rire, on l'a très vite estampillé FRPG.
FRPG, oui.
Ben oui, forcément. Oui. Parce que, comme voilà, c'est vraiment ça, il y a ce mélange de... d'être français, de vouloir faire quelque chose qu'ont fait les Japonais pendant longtemps. Et c'est ce choc, ce côté exotique qui vraiment ne pouvait qu'interpeller ceux qui l'ont vu tout de suite.
Alors, je traduis pour les auditeurs. JRPG, c'est jeu de rôle japonais. Voilà. FRPG, ce serait jeu de rôle français. Alors, Clair Obscur Expédition 33, c'est un délice à regarder. Mais on le dit depuis le début de cette émission, c'est surtout un délice à écouter. En voici la preuve. On écoute Lumière par Laurien Testard et Alice Duport-Percier.
Dim, dam, dalilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, dilim, dilililam, l'outes sera dolilam, seram. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim.
Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Enfin, la réussite d'Expédition 33, pour moi, c'est pas vraiment un schéma à reproduire parce que ça dépend vraiment de l'équipe. Et surtout, en fait, quand on est une petite équipe, ça dépend à 100% de avec qui tu bosses, en fait. L'AF qui a marché pour nous, avec notre personnalité, vraiment, c'est pas dit que ça marche pour une autre équipe du tout.
N'aie pas peur, on ne te fera aucun mal. C'est Noko qui nous envoie.
Noko te kepate. Oh. Si tu nous mènes à ton village...
Lelo Maricool.
Conduis-nous à ton village et peut-être qu'il te fabriquera quelque chose de mieux.
Attends, qu'est-ce que...
Kelly Sakakipo.
Crois-moi, je hais les menteurs.
Ok, il... Comment vivez Leko gami sakapata. Y comigalo puto.
Tu es plus à l'aise avec les gestrales qu'avec les humains.
Ils sont moins compliqués.
Mais non, ce qui est sûr, c'est que pour écrire une bonne histoire et des bons personnages et des dialogues qui marchent et qui sonnent sincères, il faut toujours s'inspirer de son vécu ou alors de gens très proches qu'on connaît très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute notre âme et beaucoup de notre vécu dans les personnages et dans la façon dont ils réagissent et les thèmes qu'ils traversent.
Ça va pas être garbage.
Vous venez d'entendre Guillaume Broche, le directeur créatif de Clair Obscur et les voix françaises du jeu, Alexandre Gillet dans le rôle de Gustave et Adeline Chetaille dans le rôle de Maëlle. Alors, depuis le début de cette émission, on le redit, on a affaire à un tout petit studio qui s'est créé avec ce jeu. Et c'est vrai que dans le microcosme du jeu vidéo, il y a ce côté, les petits ont fait mieux que les grands. Melinda, et... Qu'est-ce qu'on peut dire sur la création iconoclaste de studio ?
Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais allée les voir juste avant la sortie du jeu, c'est qu'ils ont l'âge du jeu, de leur personnage dans le jeu. C'est un studio extrêmement jeune. Je ne sais pas combien il y a de trentenaires, je pense qu'ils ne sont pas nombreux dans ce studio. Et c'est ça qui est marrant par rapport à d'autres.
Tous les cadres, ils sont morts pendant
mais
le...
Mais je pense que c'est ça, au fur et à mesure de l'élaboration du jeu. Il y a eu un gommage année après année. Non, non, on rigole, mais c'est un studio qui a été créé en 2021. Donc c'est un genou.
C'est par des anciens d'Ubisoft.
Alors voilà, Guillaume, notamment Tom aussi, ont travaillé... Ce ne sont pas des gens qui sortent de nulle part non plus, ce sont quand même des gens qui étaient un petit peu dans l'industrie, mais qui sont même très jeunes, et qui sont des amoureux du jeu vidéo. Et ça se sent énormément quand on discute avec eux. Ils ont fait un jeu avec le cœur. Et ça, je pense que c'est la plus grosse force de Sandfall et de Clair Obscur. C'est des gens qui n'ont pas réfléchi. Il n'y a pas ça par rapport à des grands studios où tout est calculé. C'est pour ça qu'on compare par rapport à des mastodontes comme Ubisoft, où je dirais presque un sou est un sou. Là aussi, sans doute, hein, on parle pas d'un jeu comme ça. Mais il y a une volonté et il y a une fraîcheur qui vraiment fait du bien aux jeux vidéo français et aux jeux vidéo même mondial. Je pense que ça a été une des forces du jeu et c'est aussi ça qui attire beaucoup les joueurs. On parle toujours des problèmes qu'il y a dans les grands studios, chez les gros éditeurs. Et bien là, voilà, on a quelque chose qui débarque de nulle part avec des gens qui ont foi en leurs jeux vidéo, qui ont foi en ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'était vraiment leur plus grosse force.
Daniel, c'est vrai que dans les communautés du jeu vidéo, on est plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'on suit... Non, mais c'est vrai, on suit énormément de licences triple A qu'on achète numéro après numéro pour mieux pouvoir les critiquer, mais on les rachète quand même, ainsi de suite. On rachète des remasterisations, des remakes, etc., etc. On l'a vu sur plein de consoles ces dernières années. Et au début, quand j'ai entendu parler de Clair Obscur Expédition 33, j'avais l'impression qu'il y avait aussi un petit peu cette revanche de se dire, oui, voilà, eux, au moins, regardez, le jeu est moins cher, mais il est mieux fait. Et en fait, non, il y a quelque chose de plus profond derrière le succès de ce studio.
D'abord, c'est que le jeu est solide, en fait. Surtout, c'est que le jeu est bon, il y a une mécanique de jeu qui a été élaborée, tout a été réfléchi, en fait. Donc, quand tu vois le jeu, il y a les conforts de jeu modernes, il y a un mode plus facile pour ceux qui ont un peu de difficulté. C'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage quand même instinctive mais importante, c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre assez profondément dans le jeu.
Oui.
Il y a une exigence presque musicale à connaître un peu les ennemis, à connaître leur attaque, et on te demande justement de... Tu peux jouer comme ça ou tu peux essayer de mettre en mode easy et tu peux jouer...
Mode histoire qui permet de faciliter les combats.
Si tu veux jouer sérieusement, ça demande une implication.
C'est du tour par tour, donc ça veut dire que votre équipe reste inactive pendant que l'adversaire va vous donner un coup. Mais par contre, vous avez le loisir soit d'éviter les coups, soit de les parer. Et je pense que la plus-value est surtout à ce moment-là, parce que déjà, ça veut dire que vous ne vous endormez jamais dans le principe du tour par tour. par tour. Mais surtout, si vous réussissez à parer, là, tout d'un coup, vos personnages commencent à faire des combinaisons de coups. Et en termes de mise en scène, on a vraiment l'impression d'avoir des personnages extrêmement badass quand on...
Si on fouille la mécanique de jeu et qu'on s'y prête, et d'ailleurs c'est un des plaisirs de joueurs, même de gros gamers, c'est quand même de casser un jeu, c'est-à-dire d'aller au-delà de la mécanique, d'aller jusqu'au bout de la mécanique, ce qu'elle peut te proposer. Et là, Clair Obscur te laisse quand même pas mal de possibilités de customiser tes personnages, de leur équiper des sortes de runes.
Des pictos.
Et de les équiper. Et ensuite, tu te fais ton propre... Une combinaison intéressante, basée sur les contre-attaques, ou basée sur... Et qui va ensuite dépasser le cap des 9999 de dégâts. Et en fait... Il y a une approche complètement gamer qui est vraiment très satisfaisante si tu te donnes la peine. Et ce qui est étonnant, c'est que quand même c'est un système exigeant, mais c'est que les gens ont accepté ce fait, même si c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as des ennemis qui vont faire des moulinets d'épées et des espèces de cirque du soleil avant de te frapper, et tu sais plus quand ils te frappent, et donc il faut y aller.
Oui, et puis d'autres qui sont terriblement obstinés, qui te frappent et qui te refrappent et qui ont encore envie de te refrapper et encore un peu de frapper, et il faut réussir à parer.
Et ça peut être frustrant.
Ouais.
Ça peut être frustrant. Au début, j'ai fait et en plus, je suis pas l'as de la piste de danse, hein, donc le rythme, je l'ai pas comme ça. Et moi, il me faut vraiment que je fasse des efforts, hein, pour y arriver. Mais ensuite, quand j'ai compris le truc, et quand je compte dans ma tête, et je compte les steps et tout, et je me dis c'est le moment, et que tu fais le contre et que ça passe, t'as un truc très satisfaisant qui est pas de l'ordre de Dark Souls, mais c'est-à-dire quand tu surmontes une difficulté, t'es quand même
très satisfaisant. C'est ce que j'appelle la jouissance du stylish, voilà. Pour citer Devil May Cry,
oui.
Voilà, où tout d'un coup on se dit j'ai pas joué comme le joueur lambda.
Oui, et donc pour répondre à ta question, oui, ça va au-delà de cette vision que c'est un jeu français fait par une petite équipe. Certes, c'est vrai, et c'est vrai qu'on peut raconter, qu'on peut dire s'ils sont 33 dans l'équipe interne, il y a encore beaucoup plus de gens qui ont travaillé dans le Q&A, mais globalement, c'est un jeu indépendant fait par une petite équipe, mais je ne crois pas que les gens finalement regardent, se disent « c'est David contre Goliath » ou un truc comme ça, cette espèce de narrative. Genre, les gens sont contents s'ils ont des bons jeux, et en fait, ça se voit tout de suite en termes de vente, quand les jeux, c'est rare, un bon jeu qui manque vraiment le coche, parce que mal marketé quand même.
Oui, par exemple, Prince of Persia Velos Crown est un excellent jeu, mais...
Mais mal marketé.
Parfois, ça dépend. C'est basé sur d'autres facteurs, mm-hmm, qui sont liés par un gros éditeur. Là, en l'occurrence, quand tu es maître à bord, quand tu maîtrises ta destinée, tu peux compter surtout sur le bouche à oreille. En fait, c'est le bouche à oreille qui a été vraiment le facteur déterminant. C'est dès les premiers jours, les gens disaient, les gens qui l'ont eu sur Game Pass, donc sur Microsoft, qui l'ont eu parce qu'ils payent un abonnement, ils l'ont eu sur Game Pass, ils ont fait un peu le buzz. Ensuite...
Mais d'ailleurs, ça, je pense que ça a énormément contribué, le fait que justement qu'il soit incorporé dans le Game Pass a démultiplié sa base de départ.
Sans doute, mais en même temps, il s'est très très bien vendu aussi, oui. Parce que il y a plein de gens qui disent que justement quand tu es présent sur des plateformes comme ça, tu vends moins. Et en fait, non, il s'est bien vendu. Il s'est vendu sur PlayStation 5, il s'est vendu sur PC. Les joueurs ont répondu présent et les gens ont commencé et très vite. Très très vite ça s'est enflammé et j'en profite parce que vraiment qu'il y a le musicien, mais très vite sur internet, sur YouTube, sur TikTok, tout d'un coup les gens sont mis à découvrir le jeu.
Deux semaines après la sortie du jeu, on est à 20 millions de streams pour certains morceaux, et donc Laurien, est-ce que vous aviez fait d'autres choses avant?
Alors avant Clair Obscur Expedition 33, j'étais professeur de guitare, donc c'est ma première expérience professionnelle dans le jeu vidéo. Donc non, en effet,
c'est votre première expérience professionnelle dans le monde du jeu vidéo.
C'est fou, excusez-moi, oui. mais à chaque fois qu'on me dit ça, je trouve ça gueudin.
Et donc vous êtes à 20 millions de streams, ça va?
Ah oui, je suis extrêmement reconnaissant envers tous les joueurs, pour tout ce qu'ils nous ont donné, pour tout l'amour qu'ils donnent au jeu et à la musique du jeu.
Et donc, comment ça s'est passé? Parce que du coup, quand on n'a pas d'expérience préalable, la rencontre avec Guillaume, comment ça a eu lieu? Je crois qu'en fait, il y a même une concordance de planètes, parce que vous êtes rencontrés sur un site Discord où vous n'alliez jamais.
Alors oui, je peux raconter un petit peu l'histoire de cette rencontre. Pour le plaisir, je m'amusais à faire en fait un morceau de jeu vidéo dans le style de jeu vidéo que j'aimais bien, par semaine. à côté de mon temps libre. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. Donc, je me suis retrouvé avec une playlist d'environ 50 morceaux qui me servait de portfolio. Et je postais cette playlist sur des forums de jeux indés pendant. Et du coup, un soir, je suis allé poster cette playlist sur un forum indépendant qui s'appelait Indé Gamer, simplement. Et ce soir-là, Guillaume, qui n'allait pas non plus sur ce site régulièrement, je crois que c'est la première fois qu'il y allait, et c'était un peu pareil pour moi, il est tombé sur ce poste et m'a envoyé un mail pour qu'on commence à travailler ensemble, et ça l'a fait, quoi.
Donc c'était, voilà, comme ça, au hasard, la rencontre, et du premier coup, pouf.
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance ce soir-là. Si ce mail n'était pas passé, ou s'il n'avait pas posté sur le forum, il n'y aurait pas eu...
Ça tient à rien.
Oui. Et là, j'imagine le nombre de parents qui sont en train de se dire « Oh, on devrait peut-être laisser nos enfants aller sur des forums.
» Poster sur des forums.
On est ensemble pour parler du jeu vidéo Sensation Clair Obscur Expédition 33. Mais pour l'heure, on va faire une courte pause musicale avec Uno 2 et Viagra Boys.
Australian, I never really listen when he's talking about himself. When I see my veterinarian, it feels a little scary, and I sleep a weird sleep, and I wake up in an area in the back of the facility. Doctors do activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath the futon. Mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia. They've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
Frédéric Sigrist.
So far so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Je m'appelle Alexis Garavarian, je suis le fondateur de Kepler Interactive, qui est un publisher de jeux vidéo, qui a été fondé en 2021 suite au regroupement de plusieurs studios de jeux vidéo indépendants, sous une même bannière, avec l'objectif de pouvoir créer, développer et éditer des jeux vidéo ensemble. On a aujourd'hui dans le studio une dizaine de sociétés qui font partie du groupe, et deux d'entre elles sont basées en France. Stoclat, qui est le développeur de Sifu et de Rematch, qui est sorti très récemment, et Tactical Adventures, qui est également basé à Paris, qui est le développeur de Solasta.
Si tu fais ça, on meurt tous les deux.
Je pense que ce qui a été fait sur ce projet est assez incroyable et à la limite de la magie, en fait. Et de vouloir créer des process et théoriser comment on peut reproduire quelque chose qui au final est assez incroyable, je pense que c'est très compliqué et que oui, dans les meilleures conditions possibles et avec tous les ingrédients du développement qui se passent parfaitement, on peut reproduire une expédition, mais je sais pas s'il y a fondamentalement des leçons à tirer de cette production ou de dire que c'est facile à reproduire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très bien passées. Il y a une équipe qui est exceptionnellement talentueuse et qui a produit quelque chose d'incroyable. Mais est-ce que c'est simple à reproduire? Est-ce que d'autres équipes peuvent le reproduire? Je suis pas convaincu. Chaque production, chaque projet est très différente avec les spécificités des gens qui sont sur le projet, avec le type de jeu qui est créé, avec le degré d'innovation qui a été fait. Et donc je pense que c'est plutôt de comprendre, en tout cas de notre côté en tant qu'éditeur, quels sont les besoins du studio et pour amener à quelque chose à nos joueurs et aux gens, en fait, quelque chose, une expérience qui va fondamentalement rester avec des jeux, avec une identité forte, avec un message qui est fort et qui vont rester en fait, au final avec les gens au-delà de la fin de leur partie. Et je pense que ça, c'est très très important.
Putain de merde. Réveille-toi, Gustave.
Lune. Les autres.
Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option.
Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde.
Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue.
C'était le directeur général de l'éditeur de Clair Obscur, Kepler Interactive, et vous avez peut-être reconnu Céline Melloul et Alexandre Gillet qui prêtent leur voix respectivement aux personnages de Lune et Gustave dans le jeu. Melinda, on vient d'entendre donc l'éditeur du jeu qui a aussi édité le très très bon Sifu, qui lui aussi était une petite surprise en son genre. Est-ce que désormais ça se passe dans ces petites structures, l'avenir du jeu vidéo ?
Je sais pas, ça passe par là, mais c'est des gens qui peuvent prendre des risques, encore. Quand on disait tout à l'heure, ben voilà, on comparait, évidemment que Sandfall a été comparé à Ubisoft, c'est, oui, il y a un côté David contre Goliath, mais tout n'est pas aussi simple, on va pas,
oui,
on
oui,
va pas
sûr,
se mentir.
Oui, parce qu'il y a aussi, il faut, c'est vrai que Ubisoft est souvent pointé du doigt pour beaucoup de à raison pour beaucoup de sujets, mais il y a aussi d'excellents.
Et on a besoin de faire de lance comme Ubisoft, oui. Aussi, il faut le reconnaître. Les développeurs, les petits développeurs le disent. On a besoin d'une locomotive pour tout le monde, mais ça fait du bien d'avoir aussi des éditeurs qui essayent de prendre des risques. Voilà, ils l'ont dit, Kepler, ils ont eu la vista d'aller chercher Slow Clap, d'accompagner Sandfall et plein d'autres. Il faut ça, parce qu'aujourd'hui, quand on est une grosse structure, on a l'impression que des petits projets comme ça, qui sont des projets très personnels, Guillaume, qu'on a entendu Guillaume Broche tout à l'heure, c'est un projet qu'il porte depuis des années, qu'il a fait lui, du temps où il était chez Ubisoft, dans son coin. Et c'est ça la force de Clair Obscur, c'est qu'il y a un alignement des planètes de gens qui ont voulu y croire, qui ont voulu le faire. Est-ce que du temps chez Ubisoft, il aurait pu le proposer ? Ben non, c'est pas sûr, ça correspond pas au marqueur de l'entreprise. Là, il a pu le faire parce qu'il y avait cette indépendance.
Assassin Obscur.
non, mais c'est vrai. Après, ce qui est vrai, ce qui a été dit, c'est est-ce qu'on peut reproduire Clair Obscur ? Je ne pense pas, et je pense même que pour Sandfall, ce sera compliqué. Quand on les voit, ils sont quand même dans une maison de maître à Montpellier. Il y a un cadre qui fait que ce jeu existe aussi. Dans un studio, même coworking ou open space, ça n'aurait pas été le même jeu, à mon avis. Donc, on ne peut pas refaire ce modèle-là, mais il peut exister parce qu'ils sont petits. C'est tout le paradoxe.
Laurien, votre avis ?
Alors, je ne suis pas vraiment au sein du studio à Montpellier. Donc moi, je suis vraiment à remote, mais je pense que ce qui compte avant tout, c'est l'amour que toute l'équipe porte au jeu et porte aux jeux vidéo en général. C'est très important pour nous qu'on ressente du coup une alchimie et une bonne ambiance dans l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'en fait, au quotidien, on est heureux de travailler sur le jeu. Pour beaucoup, c'est des juniors, c'est leur premier projet. Donc il y a un effet qui est très fort et très puissant sur... là, on a la chance de créer un jeu vidéo, notre univers... Et du coup, on est très centré sur... on a envie de faire notre truc et on a envie de proposer notre jeu avec la vision qu'on a et la vision qu'on partage tous ensemble avec le studio. Donc on est vraiment basé là-dessus. Et c'est, pour moi, c'est avant tout l'amour que, pour le coup, si je parle d'un point de vue personnel, c'est l'amour que je porte à la musique et aux jeux vidéo que j'ai envie d'amener dans ce projet, dans Clair Obscur. Et c'est la même chose pour toutes les personnes de l'équipe.
C'est intéressant parce que vous avez redit qu'il y avait une forme de jeunesse dans ce studio. Or, le propos de Clair Obscur, que ce soit musical ou même dramaturgique, on a affaire à un récit mature. C'est-à-dire que c'est des personnages, même si ça a été écrit par des jeunes, mais qui ont un vécu, la manière dont vous convoquez dès le début du jeu le deuil, la perte. Et c'est quelque chose, ayant moi-même vécu des situations similaires, où en fait ça touche juste. Et donc, d'où vient cette maturité, qu'elle soit dans la musique ou dans l'écriture ? Parce que j'ai l'impression que vous avez eu des vies alternatives qui ont nourri ce projet.
Pour moi, les thèmes que Clair Obscur aborde sont très universels et très personnels. C'est-à-dire que même si on a 20 ans ou 30 ans, on est touché par le deuil, qu'on l'ait connu ou non. Par exemple, moi, je suis terrifié de la perte de mes proches, et donc la musique du jeu, elle est imprégnée de ça aussi. Donc il y a vraiment ce côté où, peu importe qui on est, on va être confronté à ces questions-là, que ça soit de près ou de loin, ou de manière très forte, ou de manière plus chanceuse peut-être, mais on est tous confrontés à ce truc-là. Et pour moi, la jeunesse n'empêche pas de raconter une histoire à propos de la mort et de la vie. C'est pas une question... Pour moi, on peut aborder ces sujets-là n'importe quand.
Daniel ?
Ce que dit Lorient est très vrai. Hein. C'est vraiment ça le nœud et le cœur de cette entreprise. C'est quand même quelque chose qui est développé avec le cœur et qui est développé avec une démarche dramatique. Alors oui, quand tu mets la mort comme sujet, comme thématique de base, c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est quelque chose d'assez universel, et c'est ça qui a touché par-delà les frontières. Hein. C'est pas uniquement un succès français. Et je pense que, pour en revenir à ta question initiale, c'est vrai que c'est une démarche d'une société indépendante, d'une petite structure, d'une démarche un peu passionnée. Est-ce que ça aurait été possible de faire ça pour une grande société ? Moi, je sais pas si... en ce moment, on parle beaucoup de triple A, et clairement, Clair Obscur, par son essence, n'est pas un triple A. Il y a moins de budget, mais il y a un soin particulier qui est fait pour une direction artistique particulière, une musique particulière. C'est peut-être pas des choix qu'on aurait fait dans une grande société. Et je sais, hein, de source sûre, que les grandes boîtes regardent le succès de Clair Obscur avec envie, évidemment, et en se disant, mais comment on fait ? Ils font des études, ils ont fait pourquoi ça a marché, pourquoi ça a fonctionné. Mais quand on entend Lorient en parler, c'est simple, c'est un jeu qui a touché les gens. Et en fait, je pense que, évidemment, quand des grandes sociétés se posent des questions comme ça, ils prennent les mauvaises résolutions. L'important,
c'est... C'est difficile de capturer la foudre.
Hein. Oui, voilà, tu peux pas prédire ce qui va marcher, ce qui peut marcher. Et ce qui a fonctionné pour eux, c'est pas quelque chose qui va forcément fonctionner pour autre chose. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment une vraie question à se poser, c'est de faire des jeux... plus modestes dans leur ambition, mais aussi passionnés. C'est ça, en fait, ça, ce qui fonctionne. C'est que s'ils ont fait ça de leur côté, ils n'ont pas fait ça en grand renfort de pub. C'est pas un triple A comme on le conçoit, avec des millions mis sur la table.
Et oui, des affiches dans le RER, le métro.
Et des affiches dans le RER.
On a privatisé la bibliothèque François Mitterrand.
Et des pré-rolls sur YouTube et TikTok et tout ce que tu veux. C'est une entreprise beaucoup plus modeste, mais par essence, beaucoup plus naturel, beaucoup plus presque sensuel, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de passionné. Et quand tu entends Lorient en parler, c'est ça qui drive ses musiques, c'est ça qui fonctionne. Et quand tu vois le succès, parfois le succès paye, tu vois. C'est le hasard, comme tu dis. On ne peut pas prédire où va tomber la foudre. Et parfois, tu touches le cœur des joueurs. Des gens. Et c'est ça le principal. Les gens ne se souviennent pas de la technique, de machin. Tout ça. L'important, c'est ce qu'ils vont se souvenir, c'est ce qui les reste dans leur cœur.
Il y a quelque chose, je voudrais juste rebondir là-dessus, qui est intéressant, c'est que même eux n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient entre les mains. Quand on les a vus avant, donc la sortie du jeu, avant les notes, là, vraiment, des gens qui peaufinent leur petit jeu. Ils ont quand même, c'est la meilleure note métacritique, donc qui est la note de référence donnée par la presse et les influenceurs, tout le monde. On est à 92, 95, je crois quasiment. Eux, ils espéraient avoir 75 ou 80 dans le meilleur des cas. Je ne sais pas si vous imaginez la marge. Quand on leur a demandé, vous espérez quoi en vente ? Si on fait des millions, c'est bien, mais bon, si déjà on a 500 000, on sera content. Et quand vous voyez que là, ils vont arriver à 4 millions, ils ont sans doute déjà dépassé depuis longtemps, il n'y avait pas du tout conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des gens qui se sont dit, alors là, on va vous faire le jeu de l'année, voire le jeu de la décennie, le GOTY, donc c'est le meilleur jeu de l'année, il est pour nous, il y a GTA qui arrive, on s'en fout. Ils ont vraiment un alignement des planètes sur le fait déjà que GTA est passé l'année prochaine, qu'il y avait besoin de cette fraîcheur, qu'ils ont des thèmes qui parlent à tout le monde, la mort, la perte, tout ça. N'oublions pas que, par essence, c'est un jeu qui est un jeu de niche. Mmh. On parlait du jeu de rôle, le JRPG tout à l'heure, c'est un jeu d'habitués, de passionnés. Mais là, leur thématique, leur façon d'aborder la musique aussi, a touché des gens au-delà du simple genre du jeu. Et ça, pour moi, c'est leur plus grande victoire.
On approche de la troisième partie de Blockbuster consacrée à Clair Obscur Expédition 33, mais tout de suite, on écoute L'Horizon Ose de Léonie Pernet.
Blockbuster sur France Inter.
Ce sont d'autres expéditions?
Un seul névron les a presque toutes éliminées.
Il est toujours dans le coin?
Je ne l'ai aperçu qu'une seule et unique fois il y a de nombreuses années. Alors, probablement pas.
C'est un jeu qu'on voulait qui apparaisse comme un jeu d'auteur aussi, voilà, qui a une vraie personnalité, qui a pas peur d'aller dans des sujets difficiles et qui a pas peur d'être de temps en temps un peu marrant. Et moi, c'était plus cette résonance émotionnelle que je cherchais, en fait. Pas forcément à ce que le thème du jeu plaise à beaucoup de monde. Tout ça, c'est venu assez naturellement et c'est juste pas des questions qu'on se pose, en fait. Quand on écrit une histoire, c'est plus qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Si les gens nous suivent, tant mieux. S'ils nous suivent pas, tant pis. Je trouve que ça a très bien marché, donc tant mieux, on est très contents. Mais c'est plus la résonance émotionnelle, c'était plus ça le cœur du truc, on se disait, on veut que les gens, en jouant au jeu, et même si c'était pas forcément très nombreux, à l'époque on pensait qu'on allait toucher beaucoup moins de monde, hein. Le succès du jeu, c'est un peu inattendu pour nous. ce qu'on voulait vraiment, ouais, c'était avoir cette résonance émotionnelle avec les joueurs et que quand ils aient fini le jeu, ils aient un peu ce sentiment de vide, comme après avoir vu un très bon film ou finir un très bon livre, je lui ai dit quelque chose de très très fort parce que j'ai ressenti énormément d'émotions en traversant cette aventure.
Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque, devant, derrière, recto, verso.
Vous venez d'entendre le papa de Clair-Obscur Expédition 33, Guillaume Broche, directeur créatif du jeu, co-créateur du studio Sandfall Interactive, et on entendait aussi les voix de Slimane Yefsa, qui joue Verso, Sarah Cornibert, qui joue Ciel, et l'accent est joué par Maxence Cazorla. Laurien, donc vous aviez déjà composé avant de réaliser ce jeu. Votre bande-son est une des bandes-son les plus streamées actuellement. Comment vous vivez ce coup de projecteur avec un premier projet professionnel tel que celui-ci ?
Je le vis avec beaucoup de gratitude. Je me sens vraiment submergé un petit peu par tout ce qui est en train d'arriver au jeu, à la musique. Donc c'est énormément d'amour des joueurs. Donc c'est vraiment très touchant pour moi de ressentir tout ça et de ressentir que le jeu les a touchés et que maintenant il y a plein de petits trucs autour du jeu qui sont incroyables à vivre, comme les mèmes, comme les covers, comme les fanarts. C'est fou, tous les jours on a des milliers de petits cadeaux de joueurs partout. Donc je suis très reconnaissant pour ça et ça me touche beaucoup.
Oui, parce qu'il faut dire que c'est un univers aussi tellement riche. Oui. Parce qu'on peut très bien imaginer des prologues à Clair-Obscur Expédition 33. Enfin, c'est le propre des univers bouillonnants, c'est qu'on peut aussi apporter sa pierre à l'édifice.
Oui, il y a beaucoup de petites histoires, de petits secrets dans le jeu et ça plaît beaucoup aux joueurs parce qu'ils peuvent résonner avec cela. Que ça soit du coup surtout l'aspect émotionnel du jeu avec une histoire qui est très forte en émotion. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de moments qui sont beaucoup plus rigolos et beaucoup plus détendus, notamment avec les Gestral ou avec Monoko, qui permet vraiment d'avoir des moments beaucoup plus légers pour s'amuser en jouant et du coup pour échanger ensuite avec les joueurs.
Et la dernière musique que vous avez composée pour le jeu, elle était autour du personnage principal de Gustave.
C'est une petite anecdote assez rigolote, assez marrante. C'est que le thème de Gustave, qui est le personnage principal du jeu, il est arrivé quasiment en dernier sur l'OST. Donc je l'ai composé il y a quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois avant la sortie du jeu. C'était pour la petite histoire, c'était pendant très longtemps, je considérais que c'était Lumière, donc le morceau qu'on a entendu en début d'émission, qui était le thème de Gustave. Et je suis resté avec cette idée-là pendant toute la production. Et je vais pas spoiler, mais à la fin du jeu, il se passe quelque chose où Lumière doit être mise différemment. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je compose un thème pour Lumière, pour cet endroit très spécifique. Et en créant ce thème-là, c'est devenu le thème de Gustave. Parce que dès que j'ai entendu cette mélodie, du coup, là, les notes qu'on entend, les notes de piano, j'ai reconnu Gustave à l'intérieur. Et du coup, à la dernière minute, on a mis ce thème-là dans les cutscenes qui étaient très importantes pour Gustave, à plusieurs endroits du jeu, pour que ça devienne son identité et son thème.
C'est toujours compliqué quand on parle de jeux vidéo sur une antenne du service public d'inciter les gens qui n'ont pas le savoir-faire, l'envie de jouer aux jeux vidéo. Mais vraiment, s'il y a une bonne entrée vers ce que le jeu vidéo peut proposer de mieux, Clair-Obscur Expédition 33, c'est vraiment celle-ci. Parce que si vous êtes amateur de lecture de science-fiction, si vous aimez Damasio, y a évidemment des liens, il y a des influences. Et cette musique et cette émission avait pour but de vous rappeler qu'en France, on sait faire les choses, on sait bien les faire, avec une identité forte. Donc au nom de tous ces joueurs, Laurien, et aussi vous pourrez transmettre au studio, je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci.
Merci beaucoup.
Et je vous remercie tous et toutes, voilà, Melinda, Daniel, Laurien, d'avoir participé à ce blockbuster consacré à Clair-Obscur Expédition 33. J'aimerais remercier aussi très chaleureusement Étienne Bertin qui réalise cette émission, Lisiane Larbani et Benjamin Ducy qui la prépare. Et alors Benjamin Ducy, grand grand fan de Clair-Obscur Expédition 33, a vraiment, il était à fond. Avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amain Guest, et aujourd'hui à la technique, il y avait Théo de Lobadère. Comme toujours pour les messages, vous avez le répondeur ouvert tout l'été au 01 56 40 30 20. Vous pouvez évoquer les sujets à venir ou même les sujets passés ou même vos envies. Et si vous voulez parler directement avec moi, c'est Instagram, Fred Sigrist. On se retrouve demain pour parler d'un des dessinateurs de BD françaises les plus influents de l'histoire, le grand Jean Giraud, alias Moebius.
Quand l'un tombe, on continue. Demain viendra.